Bonjour à tous. Les jeudis en question sur CFM. Aujourd'hui, c'est avec Tristan Rechid. Il est formateur en démocratie locale et participative. Et l'objet du débat, de la discussion et de la conférence menée il y a quelques jours du côté de Marcilhac-Vallon, ce sont les municipales, évidemment. Ça arrive, ça approche, c'est au mois de mars prochain. Et Tristan Rechid qui prendra exemple sur la commune de Saillant.
C'est la première fois que je viens dans l'Aveyron, du coup. Alors, j'ai pas de voix parce que je suis enrhumé depuis deux jours. Puis j'ai une amygdale qui m'embête depuis quelques temps. J'ai un coupeur de feu dans la salle qui n'hésite pas à distance, du coup, à couper ma douleur à l'amygdale. Donc, les consignes, c'est que moi, j'ai un propos qui va durer, qui peut durer très longtemps, mais je vais essayer de le tenir en trois quarts d'heure. Donc, Saillant, est-ce que vous connaissez Saillant? Vous avez des gens, est-ce qu'il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler de Saillant? C'est vrai? Jamais? Tant de gens que ça, c'est vrai? Ah ouais? C'est l'Aveyron, quoi, hein? Eh ouais? Ah merde! D'accord. C'est vrai? Alors, logiquement, vu l'histoire que je vais vous raconter, vous verrez à la fin que ça sera assez normal que la majorité des gens n'aient jamais entendu parler de ce village. Sauf qu'il se trouve que ce village a défrayé la chronique. Et il se trouve que pas mal de gens l'ont entendu parler, enfin dans le milieu des gens qui s'intéressent à ces questions-là, évidemment. Le commun des mortels ne connaît pas Saillant, heureusement. Donc Saillant, c'est un petit village de 1300 habitants maintenant, 1200 avant cette histoire. Comme quoi, si vous voulez repeupler un village, faites une liste participative, vous allez voir, ça fait venir des gens. Et on est situé dans une vallée. Vous êtes déjà venu par là? Certains, ouais. Ouais. Ah ouais, bah ouais. Pour l'instant, vous savez pas où c'est. Ouais. La vallée, ok. Là. Ah ouais, vraiment, vous voyez pas la Drôme? La Drôme, ouais. Le col de Grimone, c'est ça? Ah oui, là, ça s'approche, ouais, du coup. Là, c'est le Diois, vraiment. Et c'est entre Cré et Die, en fait, le village de Saillant. Voilà. C'est ça, ouais. Ouais, on les reconnaît, hein, du coup. Donc, il y a ceux qui connaissent Die pour sa clairette. Je sais pas, d'ailleurs, pourquoi c'est aussi connu, parce que, franchement, c'est quand même pas terrible. Je sais pas ce qui... Si, vous aimez bien, vous? Ouais. De temps en temps, quoi. Hein. Enfin, nous, c'est pas de temps en temps qu'on en boit, si vous voulez. Hein. C'est un peu... Bah oui, c'est souvent. Trop. Voilà. Donc maintenant, on a des brasseurs de bière qui sont installés, donc ça permet un peu de changer un petit peu de plaisir. Je vous parle d'alcool, parce que vous allez voir que l'alcool a une place importante dans l'histoire que je vais vous raconter. Donc, c'est situé entre donc Die d'un côté, avec sa clairette, et Cré, qui est connu pour autre chose. Qui est connu pour son maire, qui s'appelle Hervé Mariton. Ça vous dit quelque chose, Hervé Mariton? Oui, voilà. Député maire, droite dure, droite plus que dure même, hein, du coup, et c'est quelqu'un qui était contre le mariage pour tous, vous voyez, qui était porte-parole contre le mariage pour tous, face à Madame Taubira. Ça vous dit quelque chose? Voilà, donc pour vous dire, on est dans la communauté de communes de Hervé Mariton, quoi. On n'est pas dans le pays de oui-oui, quoi, du coup, hein, c'est pas... Pour ceux qui pourraient penser que, du coup, ça se passe à la campagne, machin, loin de tous les problèmes, on a Hervé Mariton qui est dans notre communauté de communes. Et donc, dans ce village très charmant, traversé par deux rivières, enfin, c'est un très très joli village, ce village est administré par un monsieur qu'on appellera François, par souci d'anonymat. Donc François était le maire de Saillant entre 2008 et 2014. François, à l'époque, était au MoDem. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce parti avec un truc orange derrière, là. Vous voyez, ça vous dit quelque chose? Ouais. Et c'est le centre, mais pas complètement le centre, parce qu'il y a aussi le parti du centre. Vous voyez, c'est intéressant, ces logiques de parti, du coup, parce que ça permet d'être fin, vous voyez, sur des idéologies. Donc le MoDem, c'était le centre, mais... Centre gauche, c'est ça? Ouais? Ouais? Ouais. Et du coup, En Marche, c'est centre quoi, du coup? C'est pareil? Ok, d'accord, voilà. Donc voilà, on aura l'occasion de discuter de tout ça, de toutes ces parties, du coup, où on peut se demander finalement où ça se situe, tout ça, parce que c'est quand même assez intéressant d'être fin comme ça, d'être très précis quand même, comme ça, sur le truc. Donc voilà, donc François était au MoDem à l'époque, je dis à l'époque parce qu'il est passé aux Républicains après. Voilà. C'est un homme intelligent qui change d'avis parce que, on en parlera tout à l'heure. Et à l'époque, au MoDem, ce qui était à la mode, c'était la participation. C'était la démocratie participative. Donc il a fait campagne sur la question de la démocratie participative et de la participation des habitants. Vous savez déjà qu'on a gagné derrière? hein, qu'on l'a battu avec une liste participative. Donc vous voyez, ça veut dire que son mandat s'est pas très bien passé en termes de démocratie participative, puisqu'on a été obligé, nous, de monter une liste participative derrière. Mais bon, il s'est fait élire avec cette étiquette-là, et vous allez voir que toutes les campagnes à venir, que ce soit locale ou nationale, seront basées sur la participation des habitants. Vous allez voir, ça va devenir très très à la mode, la démocratie et la participation. Vous allez voir. Donc c'est bien, vous êtes au bon endroit. Donc François se fait élire sous cette étiquette-là, et pendant les trois premières années de sa mandature, on ne voit bien évidemment pas arriver le moindre début de commission ouverte, de consultation, de concertation sur les sujets qu'il traite. On ne sait pas ce qui se passe à la mairie. On a un panneau d'information sur le perron de la mairie, vous savez, celui qui est fermé sous clé, là. C'est le seul niveau d'information qu'on a de tout ce qui se passe à la mairie pendant trois ans. Et à un moment donné, ce monsieur décide de monter un projet qui, lui, pour le coup, va faire parler. Il décide d'implanter un supermarché à 1 kilomètre du centre du village. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça ici. Nous, quand vous passez à Saillant, vous êtes surpris parce qu'à Saillant, il y a plein de commerces. On a des coiffeurs, on a un boucher, on a une épicerie bio, une épicerie pas bio, une épicerie pas bio du tout. Enfin, vous voyez, on a toute la gamme. On peut vivre totalement en autonomie à Saillant. On a tout ce qu'il faut, du coup, pour vivre à Saillant. Surtout de l'alcool, hein, vous l'avez compris. Mais en tout cas, on a toute une palette de commerces. Et il semble qu'on ait déjà vu ça se produire ailleurs. C'est-à-dire que lorsqu'on s'amuse à implanter des grandes surfaces à l'extérieur d'un centre de village, ça crée quasiment automatiquement une fermeture des commerces de proximité. Donc ça marche pour les villages, ça marche aussi pour les grandes villes, hein, les centres-villes, je ne sais pas si vous voyez un peu, les centres-villes des grandes villes, du coup, sont totalement désertifiés, et on se retrouve du coup avec des centres-villes dortoirs ou des villages dortoirs. Donc nous, on n'avait pas très envie de ça, parce qu'on voulait continuer à garder ce dynamisme dans notre village, donc un collectif s'est mis en route, du coup on ne peut plus dire en marche, parce que sinon vous allez m'accuser d'un parti pris, et vous allez voir que tout ce que je vous raconte n'a plus grand-chose à voir avec les partis, donc on s'est mis en route contre l'idée de ce supermarché. Et la première chose qu'on a faite, c'est un truc assez classique, c'est d'aller sur le marché et d'aller récolter des signatures, hein, une pétition. Voilà. En demandant aux gens s'ils étaient pour ou contre l'installation d'un supermarché à l'extérieur du centre du village. Ce qui a été surprenant, c'est que la pétition a récolté 800 signatures. Donc je vous rappelle qu'à l'époque, on est 1200 dans le village. D'accord ? Donc ça récolte aussi les signatures des tout petits villages qu'il y a aux alentours. Mais on va dire qu'en gros, on est sur un bassin de vie de 1800 personnes à peu près. On a des petits villages de entre 50 et 150 habitants autour de Saillant, mais on est vraiment sur des toutes petites unités. Donc vous voyez, ça commence à faire du monde, quoi. Alors nous, lorsqu'on a vu les 800 signatures arriver, on s'est dit, mais c'est génial, François va être content. Lui qui n'a jamais eu la possibilité de mettre en place son projet politique, à savoir la participation des habitants, eh ben ça y est, François, tu l'as, ton sujet. Tu vas pouvoir, du coup, consulter tes habitants, parce qu'il y en a plein qui veulent parler avec toi. T'as 800 personnes au moins qui veulent discuter avec toi de ton projet débile. Eh ben il l'a pas du tout pris comme ça, lorsqu'on est allé le voir avec les signatures. En gros, il nous a dit, je suis maire, pendant encore 2 ans et demi, si vous n'êtes pas content avec mes décisions, vous prendrez vos responsabilités dans 2 ans et demi. Voilà, je suis devant vous. Grâce à François, du coup en général quand il y a des caméras j'en profite pour remercier François. Grâce à François, je suis devant vous ce soir. Nous avons pris nos responsabilités, effectivement. Donc, fin de non-recevoir du politique. Le maire de Saillant, qui s'est fait élire sur le principe de la démocratie, face à 800 de ses concitoyens, c'est-à-dire la grande majorité de sa population, qui s'oppose à un de ses projets, ce monsieur se permet de ne même pas ouvrir la porte des discussions, des négociations et de la consultation sur ce sujet. Voilà. Alors ce qu'il y a, c'est que quand je raconte ça, ça surprend personne, parce que du coup, c'est comme ça que ça se passe un peu partout. Vous voyez, c'est pas, je ne parle pas du coup d'une dictature exceptionnelle dans un village de la Drôme. Donc on continue du coup à s'agiter, et encore, ça nous a même regonflé encore plus, hein, du coup. Donc on a fait plein de petites choses. On a fait par exemple une déambulation entre du centre du village jusqu'à l'emplacement du futur supermarché. On a fait une déambulation avec des caddies, des poussettes et des déambulateurs. Vous voyez ? Ah, parce qu'il va bien falloir aller faire ses courses un kilomètre du centre-ville, vous voyez, on a des personnes âgées, on a des bébés. Il va bien falloir, du coup. Donc vous imaginez 250 personnes à peu près qui déambulent du coup du centre du village. Et le supermarché est de l'autre côté de la départementale. Vous voyez, le projet était intelligent jusqu'au bout, en fait. Hein. Et donc, départementale, les voitures roulent à 90 à l'heure, à peu près. Enfin, 80 maintenant. Et du coup, vous voyez ce qu'il faut faire. Du coup, pour traverser la départementale, il faut arrêter les voitures. Enfin, voilà. Vous imaginez tout ça avec la presse locale derrière nous pour couvrir tout ça. Voilà. Donc, on s'est amusé à faire deux, trois petites choses de ce type-là. Et à un moment donné, il s'est agi d'aller rencontrer les enseignes économiques. Donc, nous sommes allés voir les trois enseignes économiques. Donc chez nous, on a la chance d'avoir des Intermarchés, du Casino et du... j'oublie toujours le troisième, Intermarché, Casino. Ouais. Non, on n'a pas Auchan, on n'a pas Leclerc. Non, on n'a pas la chance d'avoir... Vous avez des Leclerc, vous avez de la chance. Hein. Super U. On n'a pas non plus des Carrefour. Leclerc, c'est un peu mieux que les autres, non? Hein? Non? Non, je sais pas, nous, on rêve d'avoir des Leclerc, du coup, vous voyez, c'est... Donc voilà, non, on n'avait pas de Leclerc sur le marché. Donc on avait ces trois-là. Et en fait, l'argument des 800 signatures a fonctionné avec les trois enseignes. Les trois enseignes se sont retirées du marché. Et en fait, on a compris pourquoi. On a du coup, on a Saillant. À l'est, on a Die, qui fait à peu près 4500 habitants. Et on a Cray, de l'autre côté, qui fait 8500 habitants. Et autant vous dire que ces deux villes-là sont très achalandées au niveau grande surface. Hein. Il y a tout ce qu'il faut. Hein. Il y a plusieurs partout. Donc, vous voyez, on est à 12 km, 15 km de Cré et à 22 km de Die. Il n'y avait pas une nécessité, une urgence absolue de mettre un supermarché entre les deux, vous voyez. Et c'est une stupidité de mettre un supermarché entre les deux. C'est-à-dire que on n'est pas assez nombreux économiquement. C'est stupide économiquement de monter une grande surface là-bas. Ça ne peut pas être rentable. On n'est pas assez nombreux. Il y a plus de chèvres que d'habitants là où j'habite. Vous voyez ? Et c'est rare de voir des chefs pousser leur caddie de manière autonome dans les grandes surfaces. Enfin, ça viendra peut-être un jour, mais aujourd'hui, les chefs ne font pas les courses toutes seules. Voilà. Donc en fait, il y avait quelque chose de l'ordre de cette hérésie économique et qui faisait qu'à un moment donné, les gens se sont rendus compte que, de toute façon, ils perdaient de l'argent à monter un centre commercial à cet endroit-là. Mais ils perdaient encore plus d'argent si un concurrent s'installait en face de Saillant. Ouais, ça se joue à ça, en fait. Il perdait encore plus d'argent parce qu'il perdait la clientèle de Saillant, tout simplement. Voyez. Donc je pense que les trois se sont passés un coup de fil et qu'ils se sont dit on arrête avec ces bêtises, comme ça personne ne perdra d'argent et ça suffit. Fin d'histoire. Le collectif gagne. Ça vous crée de l'émoi, ça, du coup, quand je vous dis ça, ou ça
parce que, raison, il avait décidé
ça. Alors, je ne répondrai aucune question jusqu'au bout, du coup, et ça, il faudra bien la garder pour tout à l'heure à 10h05. Parce que sinon, je vais dépasser mes trois quarts d'heure et après, je vais me faire engueuler. Et on se posera la question, effectivement, pourquoi quelqu'un, du coup, insiste comme ça sur des projets inutiles. Voilà. Les mauvaises langues diront qu'il y a des sous-tables et les autres diront que c'est une manière de marquer son pouvoir, son passage, ben, voilà. Avec une grande surface, vous voyez. Voilà. On fait comme on peut. Hein. Il y en a qui font des musées, il y en a d'autres qui font des grandes surfaces. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Voilà. Les grands hommes. Donc nous, après une grande victoire comme ça, c'est quand même une victoire contre la grande distribution et la dictature locale, enfin l'autocratie, etc. Donc nous, qu'on gagne un truc comme ça, on fait la bringue. Je sais pas si vous faites trop la bringue, du coup, quand vous gagnez des trucs, mais nous, on fait la bringue. Donc on s'est vu une première fois pour célébrer ça, et puis on s'est vu une deuxième fois pour célébrer ça. Et puis on s'est vu une troisième fois pour célébrer ça. Alors c'est parce qu'on aime bien, on picole beaucoup nous. Mais c'est aussi parce que, je sais pas si ça vous fait ça dans vos vies personnelles ou collectives, après une grande victoire, on peut vivre une période de grande dépression. C'est-à-dire qu'on se revoyait par automatisme et on se racontait toujours les mêmes histoires, vous voyez. Et on se disait, mais qu'est-ce qu'on a à faire encore ensemble en fait. Et voilà. Et du coup, voilà, donc on passe comme ça cette troisième soirée à se voir, et puis on est de moins en moins nombreux, on est une vingtaine dans la salle, et puis on est toujours en train de boire notre clairette. Et là, on a Fernand qui rentre dans la salle, et Fernand nous dit, on est à peu près à 6 mois des élections municipales, on est à peu près à cette période-là. Et Fernand rentre dans la salle, il nous dit, a priori, François va se représenter, c'est même sûr, François va se représenter, mais a priori, il n'y aura pas de liste en face. Nous, c'est des listes pleines chez nous. Et je crois qu'ici aussi, hein, 1200 habitants. Donc, comment vous dire? On vient de gagner là ce qu'on vient de gagner. Et en fait, François, quoi qu'il advienne, a priori, va repasser. Puisqu'il va se présenter tout seul. J'imaginais un peu le... Hein? Tout ça pour ça, en fait, vous voyez. Donc du coup voilà, donc on fait un peu grise mine les uns les autres. Je vais pas essayer de vous convaincre là-dessus, mais on va partir du principe. Enfin moi je vais, c'est un peu ce qui sous-tend mon discours, qu'on n'est pas en démocratie en fait. Voilà. Et que le niveau zéro de la démocratie, ça serait un pimpin qui se présenterait face à un autre pimpin et que les deux se chamailleraient. Il faudrait voter pour un des deux. Vous voyez, ça pour moi c'est le niveau zéro de la démocratie. Je vais essayer de vous démontrer ça. Il ne s'agit pas de voter pour un des deux. Vous voyez, c'est pas de la démocratie, ça, c'est autre chose. On n'est pas au marché. Vous voyez, c'est pas. Donc, c'est pas ça la question, quoi. Mais même ce niveau zéro de la démocratie, on nous le retirait, puisque François, a priori, se présentait tout seul. Donc là, on attaque directement le deuxième verre de claret, hein, parce que contre-coup du truc, et puis on discute, on se dit tout ça, machin. Et à un moment donné, il y en a un qui dit on n'a qu'à faire un truc. On va faire courir le bruit dans le village qu'une liste va se présenter face à François. Et on va organiser une réunion publique. On va inviter les gens à cette réunion publique. Sauf que lorsque les gens vont arriver, on va leur dire qu'on n'a pas de programme et qu'on n'a pas de candidat. Une soirée bien arrosée peut se terminer là-dessus. Raisonnablement, en se disant, bon, bah, on a dit suffisamment de conneries, maintenant on peut y aller, hein. Voilà, sauf que on est resté quelques-uns autour de cette idée un peu folle et on a organisé cette réunion publique. Et donc il y a eu lieu trois semaines après cette soirée dont je vous parle. Donc on est à un peu plus de 5 mois du premier tour des élections municipales lorsqu'on organise cette réunion publique et on a 120 personnes qui viennent à la réunion. 10% du village. Alors c'est pas parce qu'on est très fort en communication. C'est parce que les gens sont curieux de voir la tête de la liste qui va se présenter face à François. Je sais pas si ça marche comme ça chez vous, mais ça marcherait très bien dans notre village, ça, du coup. Hein. Vous mettez de la clairette, des petits fours et une liste secrète qui se présente face au maire sortant, et là, waouh, et vous avez du monde qui vient. Hein. Ça marche à chaque fois. Hein. Donc voilà, donc les gens viennent essentiellement par curiosité pour voir qui se présente face à François. Alors François, j'en ai pas trop parlé. François, il est maire de Saillant. Président de la communauté de communes, délégué départemental, donc conseiller départemental, pardon, délégué, conseiller départemental, et il va se présenter au sénatorial. Voilà. Alors, ma conception, en fait, et mon analyse du cumul des mandats comme ça, c'est que pour moi, c'est un homme un peu supérieur à la moyenne, du coup, hein, qui a une intelligence quand même, vous voyez, un peu plus que nous, en fait. Globalement, et surtout quelqu'un qui est doté d'une qualité de cœur énorme. Voilà. Moi, j'analyse le cumul des mandats comme un acte de générosité. C'est quelqu'un qui veut faire profiter le plus large possible de sa lumière ses concitoyens. Bon, on discutera tout à l'heure si vous êtes d'accord avec cette version-là, cette analyse-là, mais voilà. Moi, je pense que c'est d'abord un acte de générosité de cœur. Je vois pas d'autre raison à cumuler le mandat comme ça. Donc les gens viennent voir, vous voyez, on s'attaque pas à n'importe qui quand même, on s'attaque à quelqu'un qui commence à monter dans l'échelle du monde politique. Voilà, c'est quelqu'un qui commence un petit peu à prendre du poids. La réunion se... Donc on accueille les gens. Et en fait, les gens sont un peu surpris parce que quand on les accueille, ils s'attendent du coup à avoir une disposition un peu comme celle-ci. Ouais, alors encore, on m'a pas mis sur l'estrade, ça c'est gentil. Et vous voyez, en général, quand vous arrivez dans ce genre de soirée, vous avez des gens sur une estrade, sous la lumière, avec les micros, et puis nous, on est plutôt dans la fosse. Vous voyez, nous, c'est la plèbe. Vous voyez, on va assister à un moment de magie, du coup, où les gens éclairés vont nous irradier de leur lumière. Voilà. Ça se passe un peu comme ça, en général, ce genre de réunion, du coup, hein, où on présente un petit peu un programme aux gens, etc. Donc les gens s'attendent à une soirée un peu passive où ils vont recevoir du coup un message. Le message des candidats au municipal. Et sauf que ça n'a pas du tout se passer comme ça. Et lorsque les gens rentrent dans la salle, on leur pose tout de suite une question, on leur demande sur quel sujet vous souhaitez réfléchir ce soir. Alors déjà, réfléchir. Oui, quelque chose de, déjà qui est surprenant. Du coup, les gens sont juste venus manger un petit four et boire une petite coupette. Hein, vous voyez, c'est pas. Et donc, on leur propose les 8 thématiques qui vont correspondre aux 8 compétences qui nous restent dans nos communes. On en a de moins en moins. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les compétences municipales sont en train de disparaître les unes derrière les autres. On a même inventé les compétences obligatoires. C'est-à-dire que, par exemple, l'eau va disparaître des mains de la municipalité pour aller aux mains de l'interco. Et c'est obligatoire. C'est même pas une décision, vous voyez, du conseil municipal, c'est une obligation. C'est génial, non? Voilà. Donc, bientôt, dans les communes, nous allons gérer le fleurissement du village et l'état civil. Autant vous dire que ça va générer des vocations pour être élu, hein, du coup. Hein, parce que là, ça... Hein? On a envie, quand même, non? Célébrer des mariages, faire des passeports et fleurir le village. Moi, je pense que ça va être passionnant comme mandat, comme mission. Donc, on demande aux gens, en fait, sur quel sujet ils veulent réfléchir. Donc, on a une commission... Enfin, voilà, on a les sujets qu'on prend, c'est urbanisme... social, éducation, enfin on reprend finance, on reprend les 8 thématiques, machin. Et lorsque les gens entrent dans la salle, ils s'aperçoivent qu'il y a 8 chaises, il y a 8 cercles de chaises, pardon, et en fait, chaque cercle de chaises correspond à une des compétences de la mairie. On va les faire bosser pendant 2h30 sur deux choses. La première chose sur laquelle on va les faire bosser, c'est de déterminer les points forts et les points faibles du village sur chacune de ces thématiques. D'accord, pour faire un projet, a priori, on commence par faire un état des lieux, un diagnostic. Donc voilà, on leur fait faire un diagnostic du village pendant une heure, avec une petite méthode qui s'appelle le métaplan, que vous découvrirez demain, ceux qui viennent aux ateliers. Pour les autres, on vous en parlera. Et l'heure suivante, sur la base de cet état des lieux, on demande aux gens de définir des orientations pour un futur programme. Toujours pareil, compétence par compétence. Et la soirée se termine là. Il y a eu un véritable émoi dans les jours et dans les semaines qu'on suivit cette soirée. En fait, les habitants de Saillant n'ont pas arrêté d'en parler, en fait. Ils ont été touchés par cette manière de construire les choses. Parce que nous qui avions organisé cette première soirée, on s'était juste engagé à faire une seule soirée. Hein. Vous avez bien compris que c'était une blague, la liste. Enfin, c'était pas nous, la liste. Hein. Nous, on voulait juste faire en sorte que les Saillançons et les Saillançonnes se réfléchissent un petit peu, se secouent un peu les plumes. Mais il n'était pas du tout question d'aller jusqu'à écrire un programme avec les gens au début. Enfin, c'était pas notre boulot. Hein. Nous, c'était juste une réunion. Et bon, on a été obligé d'en faire une deuxième. Parce que les gens nous ont dit, on continue. Donc, on a fait une deuxième réunion publique. La deuxième réunion publique qui a eu lieu 4-5 semaines après la première. Et nous avons eu à la deuxième réunion publique 90 personnes qui sont venues. Alors je vais tester ça dans l'Aveyron, parce qu'il y a plein d'endroits où ça ne marche pas. Est-ce qu'on est d'accord que 90, c'est plus que 120? Non, ça ne marche pas non plus ici, alors. Okay. Les 90 qui viennent, ils viennent avec un stylo, chacun. Ils ne viennent pas juste pour manger des petits fours, écouter, machin. Ils savent ce qui va se passer. Ils savent que pendant la soirée, ils vont bosser à l'élaboration d'un programme. Vous voyez, donc vaut mieux avoir 90 personnes qui viennent pour bosser et conscients de ce qui va se passer pendant la soirée que d'avoir 120 curieux qui sont juste surpris de ce qui se passe. Tout ça pour vous dire que c'était un bon indicateur. Le meilleur indicateur, c'était celui-là. C'est d'avoir encore 90 personnes qui viennent sur la deuxième soirée. Et à ces personnes-là, du coup, on va les faire bosser et on va leur demander de partir des orientations. D'accord ? On part du travail de la dernière fois, hein. État des lieux, orientation, et on va leur demander, en partant de ces orientations, de définir des projets prioritaires pour le futur programme. Ça va ? Classique. Donc les gens, du coup, se saisissent de tout ça, toujours pareil, hein, sur les 8 commissions, et ils nous sortent 66 projets. Alors, la soirée a duré 4h30, elle est hyper longue, parce qu'en fait, on a demandé à chacun des binômes, on les mettait par deux, de présenter leur projet aux 90 personnes. Donc vous imaginez tous les binômes qui passent. Il y en a même qui passent deux ou trois fois parce qu'ils ont inventé deux ou trois projets. Enfin, il y avait une espèce d'énergie complètement incroyable. Et ensuite, donc ces projets étaient écrits sur des feuilles de paperboard et on mettait les feuilles de paperboard tout autour des murs, du coup, sur les murs de la salle polyvalente. Et on a donné des gommettes aux gens. Vous voyez ce que c'est les gommettes ou pas ? Ouais. C'est parce qu'on sait tous ce que c'est qu'une gommette. Hein. Ouais. C'est quoi ?
C'est l'Aveyron, mais quand même, les gommettes, ça
vient jusqu'à... Ouais. Non, mais c'est juste, je fais la blague partout, hein, même quand je suis à Lyon. Hein. Non, ne prenez rien personnellement. J'habite nulle part, moi. Hein. J'habite avec des chèvres, vous voyez. Donc, j'ai rien contre le monde rural. Hein. Bon, vous êtes un peu loin de tout, vous, effectivement, mais... on verrait demain aussi, pour ceux qui viendront à l'atelier, que la gommette est une arme de manipulation de masse. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous donnez des gommettes aux gens et vous leur demandez de se positionner sur un projet, ils savent que coller la gommette, ça les engage, mais ça serait tellement dommage de pas coller sa gommette. Vous voyez ? Il y a une espèce de ressort enfantin, vous voyez, ça vous ramène à l'enfance et vous dites, putain, j'ai une gommette dans la main, je ne vais pas ne pas la coller, en fait. C'est pas possible. Donc je vais coller ma gommette. Vous voyez ? Et donc, voilà, on verra demain, j'essaierai de vous avoir avec ce jeu-là, et je vais vous engager contre votre propre volonté, du coup, sur des projets sur lesquels vous... Voilà. La gommette, il y a un truc bizarre, coller sa gommette, il y a un truc... Peut-être qu'on n'a pas collé assez de gommettes quand on était gamin, non ? Je sais pas. Je sais pas, peut-être qu'on a été frustrés, on porte tous une espèce de frustration de la gommette, j'en sais rien, il y a un truc qui marche à fond. Voilà, en l'occurrence, on donnait 10 gommettes aux gens, et on demandait aux gens d'aller coller leurs gommettes sur les 66 projets, d'aller coller leurs gommettes sur les 10 projets qui leur paraissaient prioritaires. On a compté le nombre de gommettes et on est arrivé à 30 projets prioritaires pour le village. Le tract de campagne était composé strictement de ces 30 projets construits par les habitants. Vous savez, souvent dans ce genre d'exercice, si vous avez une équipe des gens qui font une synthèse, je ne sais pas si vous avez déjà fait partie de ces équipes-là, des équipes des gens qui font des synthèses. C'est des gens un peu plus intelligents que la moyenne aussi. Souvent des futurs élus d'ailleurs, hein, parce que du coup c'est des gens qui sont un peu au-dessus du lot, et qui sont capables de trouver ce qui est le plus important et le plus de tirer la substantifique moelle de nos propos. Vous voyez ? Parce que nous on ne sait pas le faire, vous voyez ? On sait pas trop, nous on parle comme ça, on bavasse, et il y a des gens qui savent du coup ce qui est important dans ce qu'on dit. Et des fois ces gens sont tellement intelligents du coup qu'ils arrivent même à écrire une synthèse en utilisant des idées qu'on n'a même pas eues, en fait, pendant l'exercice. Et c'est là, c'est des super grands synthétiseurs, ceux-là. Hein. C'est ceux qui sont vraiment au-dessus du lot, qui ont vraiment, du coup, cette capacité vraiment un peu supérieure de faire tout ça. Tout ça pour vous dire, en fait, que... Là, je suis en train de vous parler des fausses consultations qu'on vous propose la plupart du temps, vous voyez. On vous demande votre avis sur des choses, et vous avez l'impression que la synthèse des propos a déjà été écrite avant, parce que vous vous rappelez pas du tout de qui a pu dire, en fait, ce genre de truc pendant la réunion. Voilà. Donc voilà, donc nous on a essayé effectivement de montrer patte blanche de ce point de vue-là. Donc on a fait que des corrections syntaxiques, des corrections d'orthographe, mais pas plus que ça. Donc on a repris vraiment les projets tels qu'ils avaient été écrits par les habitants pendant cette soirée. Donc en fait, je vous ai dit qu'on se présentait sans programme, et là je viens de vous raconter qu'on a un programme. Voilà, donc on a déjà fait la moitié du parcours. Et je vous ai dit aussi qu'on se présentait sans candidat. Pour avoir les candidats, ce qu'on a fait... C'est qu'à chaque réunion, donc pendant ces deux réunions publiques, et à chaque présence sur le marché, puis à toutes les actions, je vous raconte pas tout ce qu'on a fait pendant la campagne, à chaque fois, il était proposé, on demandait aux gens du coup de laisser leurs coordonnées, et on leur demandait de cocher une case. Vous aviez une case qui disait en gros, ce que vous faites ça m'intéresse pas, tenez-moi à l'écart de ça. La deuxième case disait en gros, tenez-moi au courant, je vous laisse mon mail, et tenez-moi au courant des prochaines étapes. Et la troisième case disait, ça m'intéresse tellement que je veux rentrer sur la liste. Eh ben, on a eu 22 personnes qui ont coché la troisième case. C'est énorme. Alors, dans les grandes villes, 22, les gens me regardent de manière un peu hébétée en me disant, ouais, alors, vous voyez. Nous, on sait ce que c'est 22 personnes dans nos villages, du coup. 22 personnes dans un village de 1200 habitants qui disent, moi, je veux y aller. Eh ben, figurez-vous qu'on en avait trop. Parce qu'il nous en fallait que 15. Vous voyez ? Alors qu'en face, François, ça n'a pas eu exactement la même... ça s'est pas passé exactement de la même manière pour lui, pour avoir ses 14 colistiers. Nous, on avait trop de colistiers, trop de candidats. Ce qu'on s'est dit à ce moment-là, c'est qu'il fallait surtout pas que les gens votent pour un homme ou une femme providentielle. Vous savez que ça, c'est le sport national en France, quoi. On a besoin d'un sauveur. Le dernier, ça a été Nicolas Hulot. Il rentre au gouvernement, l'effondrement n'aura pas lieu, il sort du gouvernement, l'effondrement aura lieu, c'est inéluctable. Vous voyez ? On est dans une forme d'hystérie, en fait. Alors, je ne sais pas si c'est... je pense que notre culture est basée là-dessus. Je ne sais pas si c'est notre éducation, notre culture, est-ce que c'est... d'où ça vient, ce truc-là ? Vous avez une idée, vous, ou pas ? Parce que c'est l'éducation, ça, plutôt ? Ouais. Voilà. Donc, on a tous la sensation que quelqu'un va venir nous sauver, en fait. Et on a quelques mégalos qui se prennent pour des sauveurs. voyez ? Donc ça tombe bien, on se rencontre de cette manière-là, entre les sauveurs et puis les ceux qui cherchent à être sauvés, et c'est absolument génial. Et donc c'est l'enfer depuis tout le temps, en fait, hein, sur ces questions-là. Donc nous, on voulait surtout pas que les gens votent pour un homme ou une femme, on voulait que les gens votent pour un projet, et de préférence le projet qu'ils avaient construit. Donc pour ce faire, nous avons décidé d'établir l'ordre de la liste, et surtout de choisir notre tête de liste, qui est à la fin de la campagne. Donc c'est ce qu'on a fait. C'est-à-dire que quelques jours avant le dépôt obligatoire en sous-préfecture, on a rassemblé les 22 candidats et on a choisi notre tête de liste à ce moment-là. Autant vous dire que pendant toute cette période-là, les gens ne demandaient qu'une seule chose, c'était « qui c'est la tête de liste ?» Voilà. Sauf qu'on leur disait « bon, on n'en sait rien ». Et vraiment, on n'en savait rien parce qu'on n'avait pas fait l'exercice encore, donc on ne savait vraiment pas qui ça serait. Alors, on a fait un truc qui s'appelle, sans le savoir, en fait, on a fait un truc qui s'appelle l'élection sans candidat. On parlera de ça demain aussi et après-demain aux ateliers. C'est un mode de gouvernance, on appelle ça la gouvernance partagée, et en particulier la sociocratie, pour ceux à qui ça dit quelque chose. Et en fait, en sociocratie, il y a un mode d'élection des candidats qui se fait d'une manière un peu particulière. Donc, je vais vous décrire un tout petit peu le process, mais je vous dis encore une fois, on l'a fait d'une manière naturelle, on savait même pas que ça existait, ce truc-là. Et c'est moi, en découvrant un an après, en découvrant la sociocratie, je me suis dit, mais mince, c'est rigolo qu'on a fait quasiment la même chose pour choisir notre candidat. Donc ce qu'on fait en général, c'est qu'on redétermine la fiche de poste. C'est-à-dire qu'on se demande, un maire, une tête de liste et un maire, qu'est-ce que c'est? C'est quoi les missions? Qu'est-ce qu'on attend de lui? Une fois qu'on s'est posé ces questions-là, donc en gros, on se pose la question un petit peu de ses délégations, en fait. Hein. On se dit évidemment que c'est pas lui qui va choisir, qui va décider. Évidemment, dans notre système, c'est pas ça. Donc voilà, donc on se pose un peu toutes ces questions-là, et après on établit les qualités qu'on attend de cette tête de liste et de ce futur maire. Alors nous, à Saillant, ce qu'on a décidé, c'est d'avoir plutôt un maire médiateur, un maire animateur, un maire qui est en capacité de parler avec tout le monde, quelle que soit sa tendance. Quelqu'un qui ait ses qualités de cœur, d'ouverture, d'écoute. Vous voyez, nous, c'est ces qualités-là qu'on a définies pour notre tête de liste et pour notre futur maire. Alors que bien souvent, notre maire, que ce soit un homme ou une femme, on va plutôt chercher quelqu'un de charismatique, quelqu'un qui a une vision, quelqu'un qui en impose, ouais, qui arrive du coup à faire taire les gens. Ouais, on va plutôt chercher ce genre de... Enfin, je sais pas si vous êtes d'accord, mais je pense que 90% des têtes de liste qu'on voit sont des gens qu'on va pouvoir appeler des grands mâles blancs dominants, vous voyez. Alors, pour les femmes, ne prenez rien personnellement, du coup, parce que vous êtes bien fournies en la matière aussi. Hein, du coup, on vous retrouve aussi de plus en plus dans ces postes-là. Et puis, avec les mêmes qualités que les grands mâles blancs dominants. Voilà, donc on va plutôt chercher ce genre de spécimen, du coup, pour être tête de liste. Et ben nous, on va chercher un peu des qualités un peu à l'opposé, quoi. Plutôt quelqu'un à l'écoute, plutôt quelqu'un pas obtus, quoi, et quelqu'un qui est capable de discuter avec tout le monde. Donc, on fait ça. Et une fois qu'on a déterminé les qualités, on va demander aux 22 candidats de noter sur un post-it la personne qui, d'après elle, correspond le mieux à ce profil de poste qu'on vient d'écrire ensemble. Et assez naturellement, après 6 mois de campagne, il n'y avait même pas besoin de faire d'élection sans candidat, en fait, puisque après 6 mois de campagne, les gens se connaissent. Et assez naturellement, c'est Vincent qui avait fait preuve de toutes ces qualités-là, le plus. Voilà. Donc c'est Vincent qui a été choisi. Vous voyez les différences entre faire ça et faire ce qu'on fait d'habitude ? Poser la question, qui veut être tête de liste ? Alors je vous propose même, du coup, quand vous allez choisir votre tête de liste, où vous soyez pour les élections municipales là, qui arrivent, je vous propose de tendre un piège. C'est-à-dire, vous allez faire semblant de faire comme d'habitude. Ah, faut choisir la tête de liste, hop, qui veut être tête de liste? Et ceux qui lèvent la main, vous leur dites, ah! On t'a eu! Voilà, ça sera pas toi. Et après, vous faites une élection sans candidat classique. L'un des principes de base, on va pas généraliser, mais ça marche quand même souvent. A priori, il faut pas donner le pouvoir à ceux qui le veulent. Vous voyez, parce qu'il y a un truc un peu bizarre, il y a un truc un peu pathologique quand même dans la recherche du pouvoir, quoi. Vous voyez, c'est bizarre parce que le pouvoir, c'est des responsabilités, c'est des soucis, vous voyez, c'est de l'engagement, c'est beaucoup de choses qui sont difficiles à supporter. Donc les gens qui viennent chercher ça, on peut se demander quel est le ressort et pourquoi ces gens viennent chercher ce truc-là. Alors il y a des gens très sains, et j'en ai rencontré, qui viennent là vraiment parce qu'ils se sentent à leur place dans ce type de positionnement. Et la plupart des gens que j'ai rencontrés étaient quand même pas très clairs sur ces questions-là, quoi. Voilà. Donc je vous invite vraiment du coup à réfléchir à ça, du coup à se dire vraiment, peut-être que la recherche du pouvoir n'est pas forcément... Enfin, en tout cas, c'est peut-être pas à cela qu'il faut donner le pouvoir. Voilà. Et on est passé assez rapidement de 22 à 15, en fait, parce que plein de gens se sont aperçus pendant la campagne, c'était l'intérêt de le faire à ce moment-là, qu'une vie municipale était incompatible avec leur vie privée. C'est-à-dire que le rythme de la campagne, qui était à peu près à la hauteur de ce que pouvait être une vie municipale, il y a des gens qui se sont aperçus que c'était pas possible, en fait, tout simplement. Donc ils se sont retirés, tout en étant sympathisants, mais ils se sont retirés de la course. Voilà. Donc on est arrivé assez facilement à 15. On a eu la parité assez automatiquement, il nous a manqué une femme, donc on a un peu galéré pour trouver la dernière femme, la septième femme. Mais voilà, on y est arrivé. Et donc on se présente avec tout ça, on va se présenter avec tout ça aux élections municipales, qui ont lieu 3-4 semaines après, 3 semaines après, et la liste participative gagne face à la liste de François, avec 56,7% des suffrages et 80% de participation. 300 personnes dans la cour de l'école, 400 personnes dans la cour de l'école. Nous, on fait ça dans les cours d'école, hein, dans nos bleds, hein, du coup, hein, on n'a pas de lieu spécifique pour ça. Donc... Et on est 300 à faire la bringue, après, derrière. Vous voulez que je rentre dans les détails de la bringue ou, Vous imaginez un quart du village, en comptant les enfants, tout ça, qui fait la fête pour célébrer l'arrivée de cette nouvelle liste. Enfin, c'est complètement incroyable. Tout ça a été un chemin de joie, en fait, de rencontre et d'enthousiasme, en fait. Ça a été que ça pendant 6 mois de campagne, vraiment. Et ça, pour moi, ça c'est un des critères premiers. Si vous n'avez pas ça, n'y allez pas. S'il n'y a pas de la joie, s'il n'y a pas du plaisir, il ne faut pas y aller. Parce que du coup, ça va ressembler à de l'engagement sacrificiel. Et vous savez que ça, c'est le pire qui existe, ça. Il faut arrêter de vous sacrifier pour les autres. Hein. Surtout quand ils ne vous ont rien demandé. S'il vous plaît, arrêtez de faire ça. Parce que du coup, vous le faites payer aux autres et vous le faites payer à vous-même. En fait, ça devient, vous devenez horrible. On devient horrible quand on fait ça. Hein? Parce que quand on sacrifie sur un poste, du coup, faut surtout pas venir nous marcher sur les pieds après. Hein. C'est-à-dire, viens pas me dire comment je fais les choses. Hein. Tu m'emmerdes. Hein. Parce que du coup, déjà que je me suis sacrifié pour le faire, tu viens pas m'emmerder. Hein, vous voyez, les gens deviennent, du coup, on peut plus rien leur dire, en fait. Vous voyez, et ça peut pas marcher comme ça. C'est absolument impossible. Donc arrêtez de vous sacrifier. Hein. Faites quand vous êtes porté par quelque chose. Donc vraiment, ce chemin, ça, c'est un des critères de gagne lorsqu'on monte une liste participative, c'est y prendre du plaisir. Lendemain de la campagne, vous savez, des fois il y a des listes comme ça qui ont gagné par surprise et qui se sont réveillées un peu avec la gueule de bois en se disant mais oh merde, putain, 6 ans, oh les cons, voilà. Et parce que derrière c'est quand même 6 ans, hein, c'est pas rien, hein, du coup, hein, c'est pas, vous voyez. Et ben nous même pas, on n'a pas eu ça parce qu'en fait on a très peu parlé de démocratie pendant la campagne. On a fait vivre aux gens ce qu'ils allaient vivre pendant les 6 ans de la mandature. On a fait notre campagne, en fait, en essayant de construire ce qu'allaient être les 6 ans de mandature. Donc, vous vous rappelez des 8 cercles? Ces 8 cercles se sont transformés en commissions thématiques. Donc, vous avez 8 commissions thématiques à Saillant. Environnement, urbanisme, finance, etc., etc. Ces commissions se voient une fois par an. Et elles font un diagnostic du village et elles déterminent 3 projets prioritaires à faire dans l'année. Et chacun de ces projets est travaillé dans une sous-commission qui s'appelle le groupe action projet, le GAP. Où là, pareil, des gens se réunissent pour mettre en œuvre les projets. D'accord? Il ne s'agit pas de demander aux habitants de dire aux élus ce qu'ils doivent faire. Il s'agit de créer du travail associé entre des habitants, des élus et des techniciens pour qu'ils mettent en œuvre les projets qui ont été décidés à la base par les habitants. 8 fois 3, ça fait 24. 3 projets par commission fois 8 commissions, ça fait 24. C'est totalement débile de faire ça. Donc ça, c'est un des premiers constats qu'on a fait à Saillant, c'est de conduire 24 projets d'habitants par an dans un village de 1200 habitants. Mais si vous en faites 3 ou 4, c'est le bout du monde. Enfin, vous voyez, déjà, vous allez être là, nous, 24 par an. Voilà. On s'est retrouvé avec une arborescence, avec des projets qui partaient dans tous les sens. Donc voilà, donc ça, c'était un premier truc. Voilà. Mais on a tellement été pris par l'engouement des gens qu'on s'est un petit peu laissé embarquer par tout ça. On avait des semaines avec 3 ou 4 réunions publiques. Hein. On a fait 300 réunions publiques en 2 ans et demi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du truc. 300 réunions, commissions, GAP, machin, en 2 ans et demi. Voilà. On en fait plus du tout, là, maintenant. Hein. On fait complètement autre chose. Au bout de 3 ans, tout le monde était cuit, en fait. Les habitants, les élus, tout ça, il y a eu une espèce de... Il faut faire un truc, d'ailleurs, faites gaffe à un truc, on a utilisé beaucoup de post-it. Et à un moment donné, bon, je crois que ça s'est calmé un peu. Si vous baladez dans Saillant, vous faites tomber un post-it de votre poche... si quelqu'un vous voit potentiellement, voilà, ça crée du coup des espèces de réactions violentes. Et donc bon, faites gaffe avec ça. Du coup, ne vous baladez pas avec des post-it dans la poche parce que ça. Voilà. Donc voilà, on a créé un peu des choses un peu compliquées comme ça. Saillant est une démocratie représentative. Je suis pas en train de vous parler de démocratie directe. Là. En fait, la phrase qui pourrait symboliser et résumer tout ce que je viens de vous raconter, c'est que chez nous, on va considérer que le politique, c'est l'habitant. Le politique, c'est l'habitant, c'est pas l'élu. L'élu, c'est le représentant du politique. En général, je laisse infuser un petit peu. Donc, le politique, c'est l'habitant, c'est pas l'élu. L'élu, c'est le représentant du politique. On va pas demander aux élus d'avoir une vision politique. Ils peuvent en avoir, évidemment qu'ils peuvent en avoir, comme tout à chacun. Mais le travail premier de l'élu, c'est d'accompagner la construction d'une vision politique chez ses concitoyens. Et accompagner une vision politique, c'est de permettre aux habitants de passer d'un intérêt individuel à un intérêt collectif. Pour moi, c'est ça, faire de la démocratie. Lorsque vous avez un sujet, l'idée, c'est de mettre autour de sujet des gens qui ne pensent pas pareil sur le sujet. Et sur la base de ces contradictions d'intérêts, d'arbitrer et de prendre une décision. Pour moi, c'est ça, faire de la démocratie. Et ça n'est sûrement pas de voter. Enfin, ouais, le vote, un peu, c'est la tyrannie de la majorité. Vous voyez ? La majorité a raison, la minorité a tort. Je pense que la vérité est un tout petit peu plus complexe que ça. Et on nous fait croire que ça, c'est la démocratie. Non, non, pour moi, la démocratie, c'est vraiment de partir des singularités de chacun, de partir des visions singulières de chacun, et sur cette base, de construire des décisions collectives. Donc, ce boulot-là est censé se faire dans les missions, dans les gaps. Et dans chacune de ces réunions, en fait, vous avez quatre acteurs. Après, je reviens à mon truc de représentatif et pas direct. Vous allez voir, je fais une toute petite ellipse. Dans nos réunions, on a quatre acteurs à chaque fois. Le premier acteur, c'est l'habitant. Sauf que nous, chez nous, on va considérer que l'habitant est expert de sa situation. Il détient une forme d'expertise, qu'on va appeler l'expertise d'usage. Il sait ce qui est bon pour lui. Il sait ce qui est bon pour sa rue. Il sait ce qui est bon pour son village. Le deuxième acteur qu'on va inviter, ce sont des élus. Les élus sont systématiquement présents dans nos réunions. Il ne s'agit pas de monter des projets et d'ensuite d'aller essayer de convaincre des élus. Ça ne marche pas, ce truc-là. Donc les élus sont dans nos réunions. On fait du travail associé entre les habitants et les élus. Le troisième acteur de nos réunions, c'est des experts techniques. Parce qu'il y a des sujets sur lesquels on a besoin d'une expertise. Je ne suis pas en train de vous dire que les habitants détiennent toutes les expertises. Ça serait démagogique de vous dire ça. Donc, de temps en temps, on a besoin d'une expertise technique. Et enfin, le quatrième acteur de nos réunions, c'est ce que je vais incarner demain et après-demain dans l'atelier, c'est l'animateur. Parce que tout ça, sans utiliser des outils d'intelligence collective et sans que ça soit animé par quelqu'un, c'est un peu compliqué de permettre à des gens qui ne pensent pas pareil, du coup, de prendre une décision collective sans se taper dessus, sans rapport de domination, etc. C'est un peu compliqué si vous n'avez pas des processus pour le faire. Et pour ça, c'est pas mal d'avoir un animateur. Alors, heureusement, en France, ce n'est pas le maire qui anime les conseils municipaux et ce n'est pas le président des associations qui anime les conseils d'administration. En fait, l'animateur a un pouvoir extrême. En fait, l'animateur, c'est lui qui conduit les discussions et qui conduit le processus d'arbitrage, le processus de décision. Si vous donnez à la même personne le pouvoir de conduire la discussion et le pouvoir de décider à la fin, ça s'appelle pas tout à fait la démocratie, ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous donnez tous les pouvoirs à la même personne. On est dans cette société-là, où la personne qui distribue la parole, c'est le maire au conseil municipal. La personne qui entérine l'ordre du jour et qui compte le temps de parole, etc. C'est le maire, c'est la personne qui, à la fin, a le pouvoir de décision. C'est une hérésie, c'est une dictature, ce n'est pas une démocratie, vous donnez tous les pouvoirs à la même personne. Puis je vous dis, je vous parle aussi du milieu associatif, parce que nos associations sont des enfers aussi en termes de démocratie. Je suis un ancien directeur de centre social, waouh ! Mon Dieu, putain, on n'a pas de leçons à donner au monde politique dans la plupart de nos associations. Entre nos présidents qui sont là depuis 25 ans, nos bureaux qui se font à deux et machin, enfin ça suffit quoi. On est des assemblées générales où ils se décident rien. Vous avez déjà vécu une assemblée générale où ils se décidaient quelque chose, vous, dans vos associations? Enfin, ça devient rare. C'est comme dans les conseils municipaux, ils se décident rien dans les conseils municipaux, vous le savez ça. C'est une pièce de théâtre, hein, le conseil municipal. Hein, c'est juste permettre à l'opposition de se mettre en scène. Vous voyez, mais tout a déjà été décidé avant, depuis bien longtemps. Enfin, voilà. Donc, voilà, tout ça, on nous parle de processus démocratique de prise de décision. C'est pas tout à fait ça. Donc, en fait, et puis surtout, l'animateur, en fait, son boulot, vous allez voir, c'est de prendre soin du parce qu'en fait, on a tous un grand mâle blanc dominant à l'intérieur de nous. Vous avez déjà remarqué ce petit être à l'intérieur de vous, là, qui vous rend totalement insupportable quand vous êtes en réunion? Non? Vous voyez pas? C'est celui qui vous amène à couper la parole, à vouloir convaincre, à être un peu agressif, à... Non, vous faites jamais ça? Moi, je le fais souvent, hein, du coup, hein. Vous savez, ces gens qui prennent beaucoup de place. Ouais. Et ben, l'animateur, en fait, il permet de garantir ça, en fait. Il permet de garantir une forme d'équité, de faire en sorte que chacun puisse avoir à peu près la même place dans la discussion. Et ça, c'est assez rare. Et en fait, faut pas en vouloir aux gens qui prennent beaucoup de place. Enfin, moi, je me suis aperçu chez moi, en fait, qui a un grand mâle blanc dominant très développé, je me suis aperçu chez moi que c'était une carence affective. Parce que j'ai pas été assez aimé quand j'étais petit. Ce qui fait que du coup, quand je suis dans un groupe, j'ai besoin d'en faire des tonnes. Vous voyez? Parce que j'ai besoin qu'on me remarque sans arrêt, j'ai besoin qu'on me dise oui, t'as raison. Enfin, j'ai raison. Voilà. Et c'est juste parce que j'ai du mal à trouver ma place dans les groupes, en fait. C'est juste pour ça que j'en fais des tonnes et que je suis insupportable. Voilà. Donc voilà. Donc l'animateur, en fait, il canalise et il prend dans ses bras. Et il fait des bisous, en fait. Oui. On se reconnaît entre grand mâle blanc dominant et en fait, on se fait des petits. Voilà. Donc il s'agit d'apaiser et de cadrer. Et en fait, je vous disais tout à l'heure que Saillant est une démocratie représentative, puisque lorsque l'élu vient siéger dans sa chambre exécutive, à savoir le conseil municipal, mais nous on a une autre instance, si vous avez des questions tout à l'heure là-dessus, je vous en parlerai, on appelle ça un comité de pilotage. Mais du coup, dans notre instance exécutive, lorsque l'élu vient siéger dans l'instance exécutive, c'est bien les élus qui siègent, hein, c'est pas les habitants. L'élu, lorsqu'il va siéger, il va porter la parole de ce qu'il a travaillé dans son groupe avec les habitants. Il ne vient pas porter sa propre parole. Il vient faire remonter ce qu'il a travaillé en commission et en GAP avec les habitants. Et ce qui est drôle, c'est quand à la fin du processus, il n'est pas d'accord avec la parole qu'il porte. Mais ça y est, il a pu la porter sa parole quand il était dans le groupe avec les habitants. Il se trouve que suite aux réunions, aux arbitrages, finalement, c'est pas son point de vue qui l'a emporté. Eh ben, mon petit coco, ce que tu vas rapporter dans la chambre exécutive, c'est pas ton point de vue, c'est le point de vue qui a été construit avec les habitants et qui l'a emporté avec les habitants. Donc, nous, on n'a pas de problème avec la démocratie représentative si elle se passe comme ça. Nos élus sont représentants des commissions avec lesquelles ils travaillent. Voilà. Donc, on essaie de faire fonctionner ce truc-là. Et une dernière parole, et après, j'ai fini. J'ai presque fini à 5 minutes. Je suis très pessimiste en fait hein, sur ce qui est en train de nous tomber sur le coin du nez. Je sais pas si c'est le fascisme qui va nous arriver avant l'effondrement écologique, j'en sais rien, je sais pas lequel des deux va nous arriver en premier, vous voyez, mais je suis un peu entre les deux, vous voyez, puis je pense qu'il y en a un qui va accélérer l'autre en plus quoi du coup. Donc voire même le fascisme vert qui va, enfin bon, je sais pas ce qui va se passer, mais en ce moment, je vois plein de choses arriver qui me semblent éminemment inquiétante. Et par rapport au fascisme, en fait, lorsque je parle de liste participative, en fait, moi, mon idéal de liste participative, ce serait une liste qui rassemblerait des gens qui seraient de tendance du Rassemblement National jusqu'aux Insoumis. Pour moi, une liste participative, c'est une liste qui rassemble toutes ces tendances. Et j'en ai fait l'expérience pendant 5 ans et demi dans mon village. Peut-être que ce qui est le plus éloigné de moi sur une échelle politique, ça serait peut-être des électeurs du Front National. Je suis d'accord avec un électeur du Front National sur 95% des sujets qui ont été traités à Saillant. Donc je voulais faire dans le non, je peux être d'accord avec un électeur du Front National sur l'aménagement des rythmes scolaires, sur le sens de circulation dans le village, sur les places de stationnement, sur le plan local d'urbanisme, sur l'aménagement des bords de Drôme, sur l'extinction des feux, des lumières, sur tous ces sujets-là, je peux être en accord avec un électeur du Rassemblement National. Je vous invite à sortir de vos postures idéologiques lorsqu'il s'agit du traitement des affaires locales. Je vous invite à sortir de cette posture totalement stérile et débile qui va consister pendant 6 ans à vous opposer au camp d'en face. Vous savez que c'est comme ça que ça se passe quand même dans la plupart des municipalités. Il y a l'opposition et il y a la majorité. Quels que soient les sujets, l'opposition et la majorité ne sera pas d'accord. Je ne connais pas de manière plus débile et plus stupide de gérer une organisation. Voilà. Et juste un petit clin d'œil du coup à cette municipalité qui a eu cette intelligence lors de la première séance du conseil municipal, lorsqu'il a fallu trouver des adjoints. La possibilité d'être adjoint, en tout cas d'avoir une délégation dans cette mairie, a été ouverte aux candidats de l'opposition. En considérant que ces gens qui se battaient aussi pour administrer leur village avaient sans doute des choses très intéressantes à proposer également pour leur village, et ça serait stupide de ne pas s'appuyer aussi sur leur énergie, sur leur volonté, sur leurs bonnes idées pour construire l'avenir de ce petit village de 1200 âmes qui n'a pas besoin de ces séparations grotesques. Voilà. Bah voilà, en gros, c'était un petit peu ça que je voulais vous raconter. Puis vous dire surtout, voilà, que du coup, pour lutter contre le fascisme, en tout cas, et le Rassemblement National, s'il y a encore question de ça, l'invitation, c'est plutôt de se mettre autour d'une table avec des gens qui ne pensent pas comme vous et de vous apercevoir que sur plein de sujets, vous êtes plutôt en reliance. Et moi, il y a peu de chances que ça soit mes valeurs humanistes qui en prennent un coup. Voilà. Je pense que c'est comme ça qu'on lutte contre des valeurs de rejet et des valeurs qui isolent et qui opposent les uns aux autres. Ben voilà, je crois que j'en ai fini, je crois que c'est la pause maintenant, et on se retrouve après.
Prochain épisode des Jeudis en question, la semaine prochaine, à la même heure.